entre Yungushima y Ocasión Oriental. Vérifie totalement ce qui se
passe. Toi, tu es l'île de Lubumbashi, au Katangage, transforme en combinant les deux platines de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour cet échange d'un parole aux auditeurs. Plus de 300 journaliers qui ont œuvré au sein de la SNEL depuis plus de 3 ans pour les uns et plus de 10 ans pour les autres réclament la régularisation de leur situation. Dans une correspondance adressée au Premier ministre et rendue publique à la presse ce week-end, l'avocat conseil de ses agents sollicite l'implication ultime du Premier ministre pour que ces Congolais soient remis dans leurs droits conformément au code du travail en République démocratique du Congo. Cette situation relance le débat sur la sécurisation de l'emploi dans les secteurs tant publics que privés en RDC, malgré l'existence du code de travail. Comment commentez-vous cette actualité? 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ces magazines mis en monde par Jean-Claude Nkiala. Julie Fezabongonda est à la réalisation et Pierrot et la Mégie au micro pour la présentation. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Près de 300 personnes qui ont œuvré au sein de la SNEL, les uns disent qu'ils y sont depuis 3 ans, les autres 10 ans, et ils ont travaillé comme journaliers, selon leur avocat conseil qui a saisi le Premier ministre pour voir comment leur situation peut être régularisée. Alors, ceci relance les débats sur la sécurisation de l'emploi en RDC, que ce soit dans le secteur public, dans les secteurs privés, il y a les codes de travail qui existent. Comment arriver à avoir des garanties quand on travaille? Que pensez-vous de cette situation au sein de la SNEL, tout comme dans les autres entreprises, selon le témoignage que vous pouvez avoir dans votre milieu? La question est au centre de notre échange. Nous avons associé à ces débats M. Polydor Tangeli, spécialiste en psychologie du travail, avec qui nous allons dégager les pistes et des solutions, et surtout comment arriver vraiment à sécuriser l'emploi dans votre milieu. Polydor Tangeli, bonjour.
Bonjour Pierrot.
Merci d'avoir accepté.
Bonjour aux auditeurs.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, quand 300 personnes se plaignent d'avoir travaillé comme journalier 3 ans, 10 ans, avant qu'on entre vraiment dans l'échange avec les auditeurs, pourrions-nous avoir une idée sur un travailleur qu'on appelle le journalier dans les codes de travail?
Merci pour la parole. Le journalier, lorsque vous parcourez le code du travail, à mon humble avis, il n'existe pas un statut du travailleur qu'on appelle journalier.
Mm-hmm.
Dans le code du travail, son article 40, il est bien spécifié que le travail peut se faire sous forme de deux contrats. Un contrat à durée indéterminée et un contrat à durée déterminée. Les contrats peuvent se faire selon le mois, selon les années, ainsi de suite. Mais cependant, il existe un contrat de jour au jour. C'est que c'est un contrat. C'est d'abord un contrat. Pour une journée, une autre journée, une autre journée alors. Et la loi dit à ce sujet que, en cas d'engagement au jour le jour, si le travailleur a déjà accompli 22 journées de travail sur une période de 2 mois, le nouvel engagement conclu avant l'expiration de 2 mois est sous peine de pénalité réputée pour une durée indéterminée.
Mmh.
Voilà. Alors, aujourd'hui, le débat sur la problématique des journaliers est porté à la connaissance des autorités pour régularisation. Ça nous incite comme ça à essayer d'analyser la situation pour établir la responsabilité selon les différents niveaux. À mon humble avis, je crois qu'ici, pour répondre à vos attentes relative à la sécurisation de l'emploi, il faut établir la responsabilité à 3 niveaux. Il y a d'abord au niveau du pouvoir organisateur.
Mmh.
Le pouvoir organisateur a mis en place un code du travail qui couvre tous les aspects du travail. Bien que cette couverture ne soit pas exhaustive, mais elle est suffisante. Et en matière de ceux qui travaillent au jour le jour, il y a un article qui parle de... Malheureusement, si nous faisons un diagnostic de la situation, vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes qui aujourd'hui se disent journaliers n'ont pas un contrat au jour le jour. Ils ne les signent pas avec celui qui les utilise. Puisqu'on parle même d'employés que lorsque vous avez un contrat. Vous êtes utilisé par telle personne, mais vous n'êtes même pas lié par un contrat au jour le jour. Deuxièmement, la situation devient chaotique, telle que vous l'avez décrite là. Pourquoi ? Puisqu'aujourd'hui, les organes régulateurs plutôt, du monde du travail, affichent une certaine inefficacité. Inefficacité, surtout là je vois l'inspection générale du travail, qui a lui le rôle de réglementer les secteurs du travail. Aujourd'hui, il y a des problèmes d'éthique qui se posent, puisqu'en réalité, lorsqu'une entreprise vient œuvrer dans le marché d'emploi de la RDC, cette entreprise doit présenter le cahier des charges. Et il doit prouver comment il va utiliser les ressources humaines pour atteindre tel objectif. Alors, lorsqu'on doit faire une inspection, l'inspection doit être exhaustive. C'est que l'entreprise doit me prouver qui fait quoi et comment il est fait au sein de l'entreprise. De quelle manière il est lié à l'entrepreneur, au propriétaire de l'entreprise. Ce qui ne se fait pas. Il y a aussi un problème d'éthique, des arrangements qui se font entre les entrepreneurs et les organes régulateurs du système. Ce qui fait qu'au finish, on a des pareilles situations qui ont évolué tacitement et qui aboutissent à des choses pareilles.
Mais là, quand ça arrive maintenant avec les entreprises, on peut dire publiques, on l'a vu aussi des fois à la régie des eaux, on l'a vu dans les régies financières à l'OCC, on l'a vu à la DGDA, DGRAD, les gens qui travaillent après, ils vous disent, non voilà, nous avons été utilisés par l'OCC, et puis on nous met dehors, nous avons été des journaliers, et si ça peut encore arriver chez les privés, ça se comprend, mais quand ça arrive dans une entreprise qui est censé vraiment maîtriser la gestion de son personnel, parce que la SNEL, c'est une entreprise publique.
Pierrot, en cette matière, il y a une déconfiture. Aujourd'hui, dans le lot de ceux qu'on appelle journaliers, la plupart sont des personnes qui travaillent dans un système de sous-traitance. Et ceux qui travaillent au jour le jour sont rares. Ils ont des contrats, ils sont en sous-traitance, une sous-traitance saisonnière. Et j'en connais des entreprises qui font un cycle de sous-traitance. Ils travaillent avec la sous-traitance Pyro, ils viennent travailler avec la sous-traitance Polydor, ainsi de suite, ça s'est fait sous forme de cycle. Mais je peux aussi réagir en faisant la part des choses entre les entreprises publiques et l'administration publique. Les nouvelles unités sont de personnes qui sont recrutées selon les besoins qui se présentent dans les administrations respectives. Mais comme l'administration est gérée à deux niveaux, il y a un ministère, un service utilisateur et un service gestionnaire, qui est le ministère de la fonction publique. Et cette gestion à deux niveaux crée un certain retard, et puis il y a un certain déphasage entre l'utilisateur et les gestionnaires. L'utilisateur peut recruter sans tenir informé en amont le gestionnaire, et lorsqu'on demande maintenant la régularisation, c'est-à-dire l'engagement, l'admission sous statut, le gestionnaire s'est dit non, moi, selon ma prévision budgétaire, je ne sais pas le faire par rapport à mon enveloppe salariale, ils doivent encore attendre. C'est ce qui justifie les 2 ans, 3 ans au sein de l'administration publique. Mais la sous-traitance au niveau de l'administration publique est quand même un peu... Le journalier tel qu'il est, les communs, les mortels le dit, c'est pas au quotidien. Alors, le deuxième niveau de responsabilité, c'est le capitalisme qui élit domicile dans beaucoup d'entreprises, tant privées que publiques. C'est que celui qui amène ses fonds, il a besoin de faire beaucoup plus d'argent, et pour faire beaucoup plus d'argent, il évite
les
charges sociales. Il faut payer les gens selon le code du travail, il faut s'occuper de leur cas de maladie, tout ça. Il s'est dit non, par rapport à tout ça, et ça me rappelle là, la délocalisation aujourd'hui, les fonds sont partis de l'Occident vers la Chine. Pourquoi ? Puisque au niveau de la Chine, les charges sociales sont faibles. Et ça permet aux capitalistes de maximiser l'argent. Alors nous avons des employeurs comme ça, des entrepreneurs qui, dans un élan de maximisation excessive des recettes, essayent de profiter de l'ignorance de personnes. Surtout que nous sommes dans un pays où la demande est tellement disproportionnelle à l'offre et ils en profitent pour faire des accords tacites entre les personnes, entre eux et ceux qui travaillent, et ceux qui viennent leur offrir le travail, mais aussi ils recourent à la sous-traitance. Cette sous-traitance aussi qui, elle-même, régorge beaucoup des problèmes, hein, ce qui est remis à la sous-entreprise n'est pas direct, n'est pas également ce qui est remis à celui qui travaille. Donc, ça pose un sérieux problème. Celui qui a été en sous-traitance cyclique pendant 5 ans pourra un jour revenir pour dire non, voilà, j'ai travaillé pour la semaine, j'ai travaillé pour telle entreprise, j'ai travaillé pour telle autre entreprise, mais aujourd'hui, 5 ans après, on me dit, je ne suis plus là. Vous voyez? Donc, mais aussi, ici, je voudrais insister sur l'aspect pédagogique de l'émission. C'est que, aujourd'hui, si la problématique du journalier est abondante, hein, doit attirer même l'attention de l'autorité, c'est puisque, en amont, les Congolais eux-mêmes, nous, demandeurs d'emploi, nous embrassons n'importe qui. Nous impliquons dans un emploi sans nous référer au code du travail. Quelqu'un peut nous utiliser à son bon gré, hein, sans que nous puissions lui opposer le code du travail. Et c'est vrai que lorsque lui qui a été malin, il a utilisé les codes, il les a utilisés en sous-traitance, et il vous a fait signer des contrats à du journalier cyclique, et lorsqu'il vous dit que vous devez partir, vous dites, non, moi je ne peux pas partir comme ça, je vous ai servi pendant 5 ans, et il vous oppose tous les textes qu'il a fait. Et maintenant, vous demandez une régularisation. Quand vous demandez une régularisation, il faut savoir que la personne qui a pris les charges ne saura pas demander, vous accepter puisque vous l'avez demandé. Vous comprenez? Donc, c'est un peu à ces trois niveaux
qu'on peut partager la responsabilité.
On peut partager la responsabilité.
Bien sûr, on va revenir à vous le temps d'écouter les auditeurs, le problème de la sécurisation de l'emploi en RDC, les journaliers au niveau de la SNEL. Il peut y en avoir encore dans beaucoup d'autres entreprises, que ce soit privées, dans le secteur public aussi, les gens qui travaillent beaucoup de mois, beaucoup d'années, sans avoir signé les contrats. Que pensez-vous de toutes ces situations? 081-890-6315.
Parole aux auditeurs.
Maître Sonville, vous êtes à Lubumbashi dans la province du Katanga. Bonjour.
Bonjour, monsieur Pierre Alamiji. Bonjour à notre invité. Bonjour à tous les millions d'auditeurs de la Radio-Canada.
Voilà, plusieurs personnes nous écoutent et sont concernées par cette situation de la sécurisation de l'emploi. Alors, comment on peut parvenir à faire face à toutes ces difficultés?
D'emblée, monsieur Pierre Alamiji, je vous dirais qu'en cette matière, il y a une violation grave du Code du travail. À l'instar de la disposition évoquée par notre invité, moi, je n'ai pas encore ajouté l'article 43 qui parle de contrat d'essai. Tout contrat de travail peut être assorti d'une clause d'essai. Cette clause d'essai doit être constatée par écrit. La durée de l'essai ne peut être supérieure au délai nécessaire pour mettre à l'épreuve le personnel engagé compte tenu de la technique et des usages de la profession. Dans tous les cas, la durée de l'essai ne peut dépasser un mois pour le travail manœuvre sans spécialité, ni 6 mois pour les autres travailleurs. Si la clause d'essai prévoit une durée plus longue, que celle-ci est réduite de plein droit à 1 mois ou à 6 mois, selon les cas. La prolongation des services au-delà de cette durée maximale entraîne automatiquement la confirmation du contrat de travail. Or, dans les cas d'espèce, ça se réalise. Ça ne s'est jamais passé de telle manière dans des grandes entreprises. Or, il y a 4 ans, si nous revenons encore au problème de l'ESMEN, il y a 4 ans que l'ESMEN a procédé à l'engagement. Il y a eu le clientélisme, le clientélisme, le tribalisme, une discrimination notoire, monsieur Pierre Lamégie. Ceux qui ont été pris venaient de l'extérieur. Il a fallu que vous soyez frère d'un président du syndicat, du DG, d'un directeur, frère à une autorité de la place pour que vous soyez embauché. C'est une chose grave, c'est une violation. Au moment où les jeunes gens qui ont été utilisés, les personnes qui ont mis longtemps là-bas, étaient placées dans les oubliettes. Les journaliers, monsieur Gilles, on les appelle pour le moment des temporaires. Cette préoccupation, M. J.R., ne peut être déposée à l'Assemblée pour que le DG de la dédite de société soit interpellé au motif de n'avoir pas se conformer à la disposition du Code du travail. C'est un peu ça, monsieur Thierry Lamézi. Et cette situation n'est apparente pas seulement à l'ASNEL.
Ouais.
Dans toutes les grandes sociétés privées ou publiques, sous l'œil impuissant du ministre, qui a à sa charge le travail, la sécurité et la prévention sociale, l'article 2 du Code du travail stipule que le travail est pour chacun un droit, un devoir. Il constitue une obligation morale pour tous ceux qui n'en sont pas empêchés par l'âge ou l'inaptitude au travail constaté par un médecin. C'est foulé au pied, sous l'œil impuissant du ministre. On est en train de violer le code à tout moment. Il mérite d'être considéré comme un instrument capable, monsieur le ministre, d'apporter la paix sociale.
Mm-hmm.
C'est un peu ça. Or, maintenant, ils ont perfectionné leur manière de procéder. Ils utilisent le temporaire. Un mois. Et un autre mois, là, ils ne les utilisent pas. L'autre mois, le troisième mois, ils les utilisent. Pour échapper au code des familles. Or, tout cela, sont des cas, ces cas-là sont les gens. C'est commis par les inspecteurs de travail. Comme l'a évoqué notre invité, et c'est sous l'œil impuissant de ces inspecteurs du travail. Qu'est-ce qu'il y a encore des vacataires, M. Pierre Lamégi? On voit maintenant à l'enseignement au niveau de la SNCC, on nous parle des vacataires. À la GECAMI, on nous parle des vacataires. On se retient que leur cas n'a jamais été régularisé.
Mm-hmm.
La liste des textes aussi pour ces entreprises. Qu'est-ce qu'il y a aussi de la sous-traitance, comme l'a évoqué notre invité? Les sous-traitants abusent. C'est le droit des Congolais. Et si nous devons quitter ceci, nous constatons même pas les employés étrangers en train d'utiliser les expatriés, leurs frères, en lieu et place des Congolais, aux tâches qui sont dévolues aux Congolais. Mais quels sont les gens ici à Lubumbashi? Nous devons voir les entreprises des Libanais, nous devons voir les entreprises des Chinois, les entreprises des Indiens, même les caissiers, même celui qui conduit à Charlie. Ce sont des expatriés. Où est celui qui doit préserver ce code du travail? C'est le ministre. Le ministre est en train de faillir à son droit, à ses devoirs. Et y compris tous ceux qui le représentent au niveau des promesses. Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à un chômage criant dans les chefs de Congrès. Tout ça, c'est parce que le code de travail n'est pas pris dans l'application.
Alors, on comprend la profondeur. Là, c'est vraiment très, très important ce que vous avez dit. Le problème, c'est le respect du code du travail, c'est le respect de la loi. Vous avez évoqué la SNEL. Vous dites aujourd'hui, on utilise les termes temporaires, vacataires à la SNCC, tout comme à la GECAMI, mais la responsabilité aujourd'hui, c'est au niveau du ministère du Travail, que ce soit le ministre, tous ses représentants au niveau des provinces, chacun doit jouer son rôle pour voir qu'est-ce qui se passe, parce que l'invité l'a dit, les inspecteurs du travail doivent savoir qui est engagé dans une entreprise, qui travaille sous quel statut, comment est-il utilisé, quel est le contrat qui est lié avec l'entreprise. Il y a vraiment ce travail qui doit être fait pour arriver vraiment à faire respecter le code du travail. Ça peut résoudre cette question de la sécurisation de l'emploi dans notre pays. Merci beaucoup, Maître Sonville, de nous avoir appelé dès Lubumbashi. Mave, vous êtes à Kananga, au Kasaï Occidental. Bonjour.
Bonjour, Radio Kapi. Bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs.
Comment vous écoute, Mave?
Merci, Pierrot. Sincèrement, permettez, Pierrot, et je vous avoue, les choses qui se passent dans ce pays me donnent parfaitement la nausée et mes cœurs. En préjugé, je vais savoir qui est cette autorité, notamment du gouvernement de ce pays, peut-elle affirmativement s'exprimer d'avoir été impayé même pendant 5 mois des prestations. Alors, si les autorités qui sont au service du grand public, de même que ces journaliers ou les agents du secteur public, plutôt les journaliers, disons, n'acceptent d'être impayés pour quel motif elles font. Il ne faut pas aussi l'effort de pouvoir reconnaître les droits, non seulement de ces journaliers, mais plutôt de tous les journaliers fonctionnaires et agents de l'État de toute l'étendue du pays qui se plaignent du jour au jour de leur arriéré salarial. Bon, en fait, toutes les revendications laissent refléter à l'œil nu la fragilité de la responsabilité du gouvernement dans la prise en charge de la population. Je me rappelle, autrefois, le Premier ministre s'était félicité d'avoir réduit les taux de chômage, ramener plutôt les taux de chômage de 60 à 40%. Le la réduction, cette réduction s'exprime par le paiement aujourd'hui qui se plaint, qui s'annonce.
Mais oui, le problème avec le fait qu'ils se plaignent à la SNEL, c'est le fait qu'ils ont été impayés, ils se sont plaints que leur situation n'a jamais été régularisée, ils n'ont pas signé des contrats, ils sont utilisés comme des temporaires, comme des journaliers, ça veut dire ils travaillent au jour le jour depuis plus de 3 ans, depuis 10 ans. Alors, la question aussi reste de savoir, quand on travaille dans ces conditions, comment même son salaire peut-il être défini au niveau de la SNEL et d'autres entreprises, oui.
D'accord, merci. Bon, alors, tout ça, on peut aller plus loin. Je sais que le pays n'est pas bien géré. Je ne peux pas tout aller forcément pour définir ou soit voir analyser comment ces pays. Ben, pour y remédier, par rapport à ces revendications de ces journaliers, les textes de logo garantissant les droits des travailleurs doivent impérativement être derrière en RDC. C'est là. Enfin, de sauvegarder les intérêts des travailleurs tant du secteur public
que privé. Voilà. Et là, vous avez raison. Vous avez raison à Maître Sonville qui a dit le problème aujourd'hui, c'est d'arriver vraiment à faire respecter les codes du travail parce que tout est réglé dans les codes du travail. Notre invité l'a dit. Si le pouvoir public peut prendre l'engagement de faire respecter les codes du travail, on peut résoudre toutes ces questions. Merci beaucoup, Mave de Kananga. Maître Omar, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour Pierre Lamégi, bonjour à l'invité.
Alors, on vous écoute, Omar.
Merci beaucoup Pierre Lamégi, je vous remercie du verbe de parole abusé. Moi, je pense que l'attitude de la SNEL, comme l'a dit mes prédécesseurs, l'un de mes prédécesseurs, est une violation de la Constitution d'abord, qui garantit les droits de travail sacrés. Et des deux, les droits du travail qui est son article, je crois, 43, moi, que je me trompe, c'est dit que lorsqu'un individu est appelé à exercer dans toi, il est censé être soumis à un contrat de travail à durée indéterminée. Moi, je pense en ces jours que cet acte rébarbatif qui est à la fois odieux soulève le débat sur la sécurisation du travail en RDC. À mon avis, je crois que nombreux le partagent, lorsqu'il faut comparer les textes qui garantissent les droits du travail et ceux qui nous vont sur le terrain, la bouteille paraît cassée et je crois que la coquille paraît vide. Donc, le bilan est purement négatif. Pour tonifier mon argumentaire, Pierrot, je vais vous citer quelques faits marginaux qui se passent sous les yeux du juge du travail, de l'inspecteur du travail et du gouvernement congolais. Si vous lisez le code du travail qui a été voté en 2002 et qui est modifié en ces jours, on dit que tout travail doit être rémunéré. Et rémunération en droit congolais du travail veut dire, à part le salaire qu'on appelle traitement, il faut également le frais de transport pour tout travailleur qui habite près de 5 km. Il faut également le soin médicaux qu'on doit allouer à ces travailleurs. Il faut également les allocations familiales pour sa femme et ses enfants, ou encore pour son mari et ses enfants. Et enfin, il faut la sécurité sociale. Il faudra affilier votre travailleur à l'ANSS. Si vous faites des questions sur le terrain, allez poser des questions. Combien d'employeurs, tant publics que privés, respectent-ils ces dispositions légales? Personne. Et deux, le phénomène sous-traitant aujourd'hui, c'est une violation flagrante du code du travail. Combien les employés congolais passent sous la sous-entreprise en appel communément sous-traitance? Qu'est-ce que l'inspecteur du travail? Qu'est-ce que le gouvernement congolais? Qu'est-ce que le juge du travail? Et enfin, à part l'aspect relatif aux rémunérations, l'aspect relatif à la sous-traitance, il faut aussi voir dans quelles conditions travaillent les travailleurs congolais. Excusez-moi cette redondance. Si vous allez peut-être sur les esprits, vous allez voir les gens qui travaillent dans les magasins. Du matin au soir, ils n'ont rien mangé. Ils n'ont même pas des installations hygiéniques. Alors que le code dit que l'employeur doit mettre les travailleurs dans les conditions pour bien utiliser sa mission. Alors dans tout cela, on se demande si vraiment nous existons. Et nous avons l'impression de regretter d'avoir fait le droit. Parce que nous avons appris des théories qui n'ont été jamais pratiquées. Et pour finir, je pense à mon avis bureau. Cela a pour cause principale, premièrement, l'immobilisme de l'inspecteur du travail. L'inspecteur du travail n'a pas seulement pour mission de concilier l'employeur et l'employé, mais aussi pour mission de contrôler l'applicabilité du code du travail. Mais je n'ai jamais vu, moi, dans ces pays, où est-ce que les inspecteurs du travail font des tours dans des usines, dans des sociétés, pour voir si les codes du travail sont respectés. Je me demande sur même une distance une fois à la semaine pour voir dans quelles conditions travaillent ces journaliers. Les deux. Il y a la complaisance du juge du travail. L'inspecteur du travail peut bien traiter un dossier, il envoie au juge du travail. Mais lorsque l'employeur, surtout les expatriés, ont beaucoup de moyens, ils corrompent et les travailleurs meurent par son triste sort. Et enfin, j'ai senti aussi la différence du gouvernement. Le gouvernement qui est censé protéger les droits des travailleurs, en leur allouant des bons salaires, en contrôlant et en transmettant les dossiers au parquet, ne le fait pas. Je félicite le gouvernement du Katanga qui a obligé à tout expatrié de payer au Congolais au moins 100 dollars et de respecter les codes du travail. Je pense que si tous les gouverneurs emboîtaient le pas, on aurait tant respiré. Et pour pallier à ces problèmes, de la SNEL, moi je pense que pour finir, à titre de solution, c'est une violation flagrante de la loi. Ces gens exercent un emploi permanent et selon les codes du travail, ils sont censés être soumis à un contrat à durée indéterminée. Donc, les inspecteurs du travail qui ont la mission légale de contrôler les contrats du travail doivent faire un tour là-bas et ont besoin de sanctionner ceux qui ne respectent pas. Et de deux, nous demandons au gouvernement congolais, qui est un gouvernement dit social, comme l'a déclaré le président, de tenir la qualité sociale des travailleurs. Il ne suffit pas dans un pays d'avoir une panoplie de textes, un chapelet de bonnes intentions légales, mais encore faut-il les mettre en application pour le seul bonheur du peuple que nous sommes. Voilà, mon avis, Biro, la somme de solutions que je peux proposer pour pallier à ces problèmes.
Merci, Maître Omar, vous êtes ici à Kinshasa. La responsabilité du pouvoir public, les inspecteurs du travail, les juges du travail, tous ceux qui doivent aider à faire appliquer les codes du travail, tous ceux qui doivent inspecter pour savoir comment les gens travaillent-ils, comment sont-ils engagés, que ce soit à la SNEL, que ce soit ailleurs dans d'autres entreprises. C'est la responsabilité du pouvoir public. Alors, notre invité a évoqué tout à l'heure aussi la pauvreté, la misère qui fait qu'aujourd'hui, les gens embrassent n'importe quel travail à n'importe quel prix, sans des fois à se poser deux questions. Merci beaucoup, Maître Omar Ibra. Vous êtes à Dungu, en province orientale. Bonjour.
Bonjour Pierre et la Mégie, bonjour Radio Kapi.
On vous écoute, Ibra. Vous avez suivi, les compatriotes sont revenus sur la responsabilité de l'État en ce qui concerne le respect du code du travail pour arriver vraiment à résoudre cette question de la sécurisation de l'emploi dans notre pays. Quel est votre point de vue?
Oui, Pierre et la Mégie, moi je dois parler d'abord pour les services privés ici en République démocratique du Congo. La manière dont on traite un contracté dans un service privé, c'est vraiment différent, c'est vraiment catastrophique. Qu'en sera-t-il alors les problèmes pour un journalier dans un service privé? Alors moi je me pose la question, quel est le problème, quel est d'abord le rôle des inspecteurs des services? Parce que c'est un peu qui est censé passer de temps en temps dans le service, voir comment on traite leurs agents, comment on paye même leurs agents. Ici en RDC, je vois vraiment pour moi, le problème se tombe pour notre gouvernement. Notre gouvernement est défaillant partout.
Allô, oui, Ibra, vous êtes avec nous?
Oui, je vous écoute.
Alors, pour vous, vous pensez que c'est un problème de la défaillance du pouvoir public, les inspecteurs du travail, c'est là où se trouve le problème aujourd'hui?
Effectivement.
Voilà, merci beaucoup, Ibra, vous êtes à Dungu. Le problème, c'est d'abord le rôle hein, même des inspecteurs du travail, c'est ce que vous avez demandé, mais vous estimez qu'il y a une défaillance du pouvoir public dans ces secteurs. Merci beaucoup. Michel, vous êtes à Matadi, dans la province de Bas-Congo. Bonjour, Michel.
Oui, oui, bonjour, monsieur Marie.
Alors, on vous écoute, Michel.
Oui, moi, je crois qu'on doit être ému lorsque nous entendons les discours de nos auditeurs. Vous savez, si vous n'avez pas l'emploi, vous êtes vide. L'emploi sécurise l'homme, rend l'homme libre. Papa, vous savez, je vais vous donner un exemple. Les problèmes que nous avons, ce n'est pas que les Congolais ne connaissent pas les lois. Mais les grands problèmes que nous avons, les lois les Congolais ne sont pas sécurisés en matière d'emploi. Je vais vous en donner un exemple. Lorsque la loi dit que si vous êtes journalier ou temporaire, dépassé, vous avez travaillé pendant 6 mois, l'employeur est obligé de vous engager. Mais le grand problème que nous avons, c'est avec les expatriés. Ils ne veulent pas se soumettre aux lois. Moi, j'ai un problème. Nous avons un problème avec l'Indien. Lorsqu'ils m'utilisent et que je vois que je suis dans mes droits, je m'en vais faire savoir la chose. Je suis passé à l'inspection et le dossier a été traité en bonne et due forme. Et je me suis allé pour déposer ma plainte au niveau du procureur de la République. Depuis le mois de novembre jusqu'à 16 jours, pour qu'il suive, pour passer là, lui-même le procureur vous dit que je ne saurai jamais arrêter cet homme parce que ce sont des intouchables, des enfants chéris. Et comment voulez-vous que nous puissions connaître ces lois, mettre ces lois en pratique? Nous connaissons ces lois, mais les problèmes ne sont pas sécurisés. Mais le gouvernement, moi je crois qu'il doit se poser la question. Il n'y a pas si longtemps, vous avez vu les Congolais aller toucher les biens des Chinois. Mais est-ce que le gouvernement s'est posé la question, pourquoi seulement les Congolais sont allés toucher les biens des Chinois? C'est ça la grande question. C'est ça la grande question que l'État doit se poser. Nous avons un gouvernement qui ne protège pas les Congolais. Pendant que les Congolais qui sont en Chine respectent les lois chinoises. Et lorsqu'ils commettent un délit, il est censé de répondre aux actes. Mais nous avons déjà ici des expatriés qui nous utilisent abusivement. Nous sommes des esclaves, mon frère. On est des esclaves. Parce que sans l'emploi, on est faible. Même au niveau des familles, vous ne pouvez même pas parler. Parce que vous n'avez pas l'emploi. Ce sont les problèmes. Donc l'État doit être tassé. Moi, je ne sais pas si à cette ère-là, à cette ère-ci, nous pouvons dire à l'État qu'il doit sécuriser les Congolais. Non.
Merci, merci beaucoup Michel. Le problème, c'est la responsabilité de l'État qui doit sécuriser les Congolais qui travaillent, que ce soit avec les expatriés qui travaillent même au sein de la fonction publique, au sein des entreprises publiques. Il faut qu'ils soient sécurisés. Qu'est-ce qui se passe dans les magasins qui sont tenus, les entreprises qui sont tenues par des expatriés? Comment les gens sont-ils engagés? Quel est le statut qu'ils lient avec leur employeur? Dans quelles conditions ils travaillent? Toutes ces questions doivent être résolues et c'est l'État, l'inspection du travail, qui doit faire ses travaux pour permettre à ce que les gens soient sécurisés et que les emplois soient aussi sécurisés. 081-890-735, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous revenons à vous, Polydore Tanguéli. Vous avez suivi nos auditeurs. Je crois que les gens sont revenus sur la responsabilité du pouvoir public, la responsabilité de l'État, l'inspection du travail, pour savoir qu'est-ce qui se passe, comment faire appliquer les codes de travail. Mais vous avez évoqué la pauvreté, les difficultés que les gens ont aujourd'hui à accéder à l'emploi, ce qui pousse les gens à accepter de travailler dans n'importe quelle condition. Alors, l'impression qu'ils donnent, selon le propos de nos auditeurs, c'est qu'ils sentent qu'il y a vraiment un fossé entre ce que l'État doit faire dans la sécurisation de l'emploi et ce qui se fait sur le terrain dans le respect du code de travail. Voilà, les gens sont revenus vraiment là-dessus plusieurs fois.
Oui, en fait, je ne saurais pas embrasser tout ce qui a été dit, pour autant que nous traitons ici de la problématique du journalier, mais il y a le problème des salaires, des conditions de travail, ce sont des thématiques typiquement différentes. Mais en ce qui concerne le rôle de l'État, il faut faire une lecture transversale du code du travail. De la même manière que l'État doit protéger, sécuriser le travailleur, il a aussi le même devoir de sécuriser l'employeur. Surtout dans un État qui fait appel à des investisseurs. C'est ce qui justifie le fait que beaucoup d'entreprises qui viennent investir dans notre milieu ici sont exonérées. Mais il n'y a pas une communication suffisante entre le gouvernement et de l'autre côté. Ici, je voulais aussi figer le comportement extra-punitif de beaucoup de nos Congolais. De tous nos compatriotes qui ont parlé de cette thématique, qui ont exprimé leur point de vue dans cette thématique, plus ils condamnent le gouvernement. Mon cher ami, nous vivons à Kinshasa. Si vous passez à Victoire, il y avait un lac là-bas. Mais si c'est là qui est arrivé, vous pensez vraiment que la responsabilité première incombe au gouvernement? C'est toi, c'est lui, c'est autre qui a jeté son petit sachet, sa petite bouteille dans un caniveau. Et au bout de 3 mois, 4 mois, ça a causé le bouchage de trucs, et les conséquences sont là. Je crois, nous sommes nous-mêmes Congolais des personnes qui sont en train d'enrichir des irrégularités dans le monde du travail. Comment pouvez-vous accepter qu'un expatrié vous utilise, ne vous emploie pas, respectons les termes, vous utilise dans sa petite boutique et vous paye $20 sans que vous puissiez signer n'importe où? Un licencié de surcroît. Donc, en amont, nous avons affaire à des personnes qui ne se connaissent pas, qui ne connaissent pas la valeur. Puisque en matière du travail, il y a le principe de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que ce que j'offre doit être proportionnel à ce que on me donne. Alors, si par la faim, si par négligence, par manque de vigilance, vous êtes entré, vous avez embrassé un système que peut-être contrôle celui qui vous utilise, Lorsqu'il y a effet boomerang, je suis sûr que celui qui vous utilise a des arguments. Mm-hmm. Voilà pourquoi moi, en lieu et place, j'ai dit à la maman que le gouvernement avait sa responsabilité.
Oui.
L'inspection du travail avait sa responsabilité. Mais ici, j'en appelle aux Congolais à une certaine vigilance. Lorsqu'il y a quelqu'un qui veut vous utiliser, on a parlé ici du contrat d'essai. Mais l'essai n'est toujours pas concluant. C'est un essai. Ce n'est pas toujours concluant. Donc, celui qui vous utilise à l'essai a la lassitude, hein, au bout d'un temps, de dire voilà, voilà, voilà. Et nous oublions que tous ces gens-là ont aussi des conseillers juridiques. Je ne défends pas ici les entreprises, je ne défends pas le quoi, mais je dis que les responsabilités doivent être à ces trois niveaux. Mais c'est d'abord aux Congolais de connaître la loi. De connaître la loi. Ils ont évoqué des articles, mais c'est l'article 43. J'ai évoqué l'article 40, mais que tous ces journaliers connaissent. Ou alors, ils se rappellent qu'il y a des articles lorsqu'on leur dit non, ne venez plus. Vous comprenez? Donc, nous devons nous sécuriser en nous outillant suffisamment. Surtout que, en matière du travail, l'accord tacite n'est pas encouragé. Le contrat oral n'est pas encouragé. C'est le contrat écrit qui est encouragé. Et lorsque vous avez un contrat écrit, quel est le contenu du contrat? C'est un contrat d'essai. Le contrat d'essai a des alinéas. Et le contrat d'essai ne vous sécurise pas. Pourquoi? Puisque cela dépend de l'appréciation. Puisqu'il évalue vos performances durant la prestation. Est-ce que durant le contrat d'essai, il y a eu des fiches d'évaluation qui ont circulé? S'il n'y en a pas, c'est-à-dire au bout de l'essai, il y aura la subjectivité de l'employeur qui va prévaloir. Donc voilà un peu, pour beaucoup de nos frères, ils entrent dans la piscine, c'est lorsqu'ils sont mouillés, qu'ils se disent, oh là là, je ne savais pas qu'il y avait de l'eau ici. Donc, il y a un effort de vulgarisation, puisque les gens ne connaissent pas, mais aussi un effort de vigilance, vulgarisation des textes de la part du gouvernement, mais un effort de vigilance pour que vous ne fassiez pas n'importe quoi. Prenons le cas des nouvelles unités. Un ministère pense, un secrétaire général qui pense que non, comme il est nommé, il doit mettre ses cousins, ainsi de suite, sans demander l'autorisation de la fonction publique. Et il fait occuper à quelqu'un un poste qui n'est pas budgétisé. Lorsqu'il transmet la liste au niveau du ministère de la fonction publique, qui gère le personnel de l'État au second degré, le ministère de la fonction publique dit, mais moi je n'étais pas autorisé d'employer ces messieurs. Et l'enveloppe salariale aujourd'hui ne me permet pas de les prendre en charge. Tu devras attendre lorsque ce poste sera budgétisé. Et celui qui ne comprend pas viendra vous dire que j'ai fait 5 ans, j'ai fait 8 ans, j'ai fait 10 ans comme nouvelle unité sans salaire. Donc, il y a un manque de synergie à tous les niveaux qui justifie cette déconfiture. Alors, revenons maintenant au problème du journalier. C'est lui qu'on appelle aujourd'hui journalier. Moi, je pense que pour le sécuriser, puisque c'est ça l'objet de notre échange, comment sécuriser cette personne? Ça me rappelle ici les débats concernant les femmes qui vivent en concubinage, les foyers en concubinage. C'est que, on a observé, puisque le fait précède la loi, on a observé qu'il y a des saisons qui ont des maîtresses, ils vivent en tant que, ils vivent avec certaines femmes en tant qu'époux, en relation d'époux-épouse. Mais il n'y a pas un mariage contractuel. Il y a eu des efforts au niveau de la réglementation pour qu'on puisse délivrer à toutes ces personnes les attestations de possession d'état d'époux, qui peut être opposable et qui sécurise même cette femme-là, en cas de succession, en cas d'héritage, puisqu'il y a eu un lien, bien que non contractuel, mais qui peut être témoigné par les conditions pour l'obtenir, il faut témoigner auprès des autorités. Moi, je propose, pour ce qui est des journaliers, surtout qu'il faut préciser ici, le gros des journaliers, de ce qu'on appelle journaliers, sont des personnes qui ont été engagées de manière saisonnière. Il y a des activités saisonnières. On veut faire une activité qui est liée à un temps et on vous appelle des vacataires, des saisonnières. Ça se fait maintenant dans certaines universités, certaines institutions d'enseignement supérieur. C'est que pour une année quelconque, on a besoin d'enseignants. On veut dire, non, nous voulons travailler avec vous pour cette année ici.
Et vous les renouvelez, vous les renouvelez. Donc, vous ne pouvez pas aller vous plaindre au bout de 5 ans. Non, j'ai travaillé pour cette institution pendant 5 ans. Et aujourd'hui, on me demande de partir. Vous avez été un saisonnier. Il y a la sous-traitance cyclique. Un employeur peut avoir peut faire la sous-traitance cyclique avec trois entreprises de sous-traitance. Ce sont des stratégies des capitalistes. Et nous sommes dans un monde capitaliste. Donc, soit ici, la société civile prend à bras les corps le problème, hein, et on déclenche des mouvements de grève pour contraindre le gouvernement, hein. Il y a des mécanismes, par exemple le Parlement, contraindre le gouvernement à ne plus autoriser. Parce que celui qui fait la sous-traitance cyclique est couvert par le texte.
Mm-hmm.
Oui. Et vous qui allez vous adhérer à la sous-traitance cyclique, vous ne connaissez pas le texte. Et lorsqu'on vous met dehors, vous venez pour vous plaindre. Donc, il y a d'abord un effort au niveau des individus, au niveau de nous, demandeurs d'emploi. Nous embrassons n'importe quoi à cause de la pauvreté. Et je propose ici, pour ce qu'on appelle journalier, c'est-à-dire, comme nous avons des bonnes à la maison, vous avez quelqu'un qui vient travailler chez vous, qui vous lui remettez l'argent, il ne signe nulle part, il n'y a rien d'écrit. Si celui-là peut avoir des témoins, si, il peut avoir des preuves qu'il a travaillé auprès de vous, nous pourrons l'appeler journalier. Comme vous l'avez dit, comme il est compris par les communs des mortels, on peut lui attribuer une attestation du journalier, et il peut opposer à celui qu'il a utilisé de manière officieuse. Surtout qu'il faut reconnaître ici que l'emploi clandestin est prohibé par le texte.
Voilà. Mais il y a cette question de la SNEL, on a vu aussi, je vous rappelle une fois avec l'OCC, il y a des gens qui ont travaillé comme ça, qui enfin ont dit que le besoin ne s'est présenté pas pour qu'on puisse les engager. On leur dit de partir 2 ans après, 3 ans après, et la plupart sont allés aussi, ils sont venus même chez Radio Capi réclamer qu'ils soient indemnisés parce qu'on les a utilisés pendant 3 ans, et puis aujourd'hui on nous dit de partir, nous n'avons pas eu de contrat, on n'a pas de compte final. Voilà toutes ces questions qui viennent de temps en temps.
Voilà pourquoi ici, il y a le rôle du syndicat. Il est regrettable que nous puissions avoir des syndicats dans le monde du travail, avoir des syndicats de vente, des syndicats qui sont des complices des employeurs. Comment se fait-il que vous, syndicats, sous votre barbe, vous voyez l'employeur utiliser une même personne pendant 5 ans sans que cela puisse vous interpeller? Il revient au syndicat de plaider. Donc, dans le code du travail, il y a tous ces garde-fous là.
Mm-hmm.
Tous ces garde-fous. Et le syndicat a été observateur. Et aujourd'hui, ce sont des plaintes. Mais en réalité, ceux qui se plaignent aujourd'hui ont été les complices de la fois passée en disant non, voilà, je viens de faire 2 ans, si vous rompez ma saison, hein, mon contrat d'essai, je vais souffrir, et que vous ne pouvez pas renouveler. De renouvellement en renouvellement. C'est lorsque l'employeur opte pour une rupture par rapport à sa charge et ainsi de suite, ça devient un problème judiciaire, un problème politique qui est politisé et ainsi de suite. Donc, j'en appelle à la vigilance d'abord des Congolais pour qu'ils ne puissent pas pour alimenter les marchés d'emploi de tous ces toi-boi qui posent aujourd'hui problème.
Voilà.
Qui posent aujourd'hui sérieusement problème. Aujourd'hui, on adresse la lettre au Premier ministre. Il a une SNEL qui a un sérieux problème de fonctionnement, un sérieux problème de charges familiales. Bon, je ne fais pas de la politique, je me réserve que vous ayez une réponse politique. Pas une réponse qui résout le problème. Puisqu'à la fois, comme autorité de l'État, il est tenu à protéger un le travailleur et l'employeur. C'est légal. C'est légal. Le Premier ministre ne peut pas prendre une décision qui tue la SNEL. Faut-il encore que vous ayez, que nos amis de la SNEL aient des arguments suffisants? Voilà pourquoi moi j'en appelle pour cette thématique de manière globale à la vigilance des demandeurs d'emploi.
081-890-6315. Robert, Claude, nous allons vous accorder la parole tout juste après.
Parole aux auditeurs.
Nous avons John Ojan qui nous a écrit de Butembo qui dit ceci. Je pense que le problème qui se passe au Congo est déplorable pour résoudre. Il faut d'abord que l'économie congolaise soit très forte pour accorder de l'emploi sécurisé à plusieurs Congolais. Et là, ça peut diminuer le nombre de chômeurs. Il faut définir la politique sur le plan du développement en ce qui concerne la création des emplois, le respect de l'application des lois qui régissent le secteur du travail, le code du travail. Tout cela doit être respecté de part et d'autre. Innocent Armand Kondo lui dit Kinshasa, la loi est claire sur ces cas. Ceux qui ont travaillé à la SNEL comme journaliers ont été utilisés. Alors, si on connaît comment cette question doit être résolue, qu'on puisse la résoudre en fonction de la loi, alors on n'a plus à se plaindre. Il y a Francis Mbompo qui dit ceci, la question de la sécurisation des emplois, les protections juridiques de certains travailleurs congolais ne cessent de poser problème alors qu'ils sont chez eux. Pas seulement les cas de nos compatriotes qui se plaignent à la SNEL, vous pouvez étendre les débats. Nous nous rendons compte que beaucoup qui travaillent depuis autant d'années sont parfois sans numéro matricule, sans salaire. Il y a même des cas de ceux qui sont mécanisés mais qui n'ont pas accès à leur salaire. Voilà autant de questions. L'État doit pouvoir mettre de l'ordre dans ces secteurs. Clovis Dembouj-Maï pense que pourquoi continuer à parler des gens comme des journaliers et pourtant ils sont payés même s'ils ont un salaire insuffisant. Comment pendant 3 ans peuvent-ils être utilisés par la société et continuer à rendre service? Et ce sont eux qui amènent des factures, il y en a qui rétablissent les courants, on les voit sur des poteaux pendant autant d'années dans des quartiers, on les connaît, et en fin de compte ils se plaignent qu'ils n'ont pas un contrat qui les lie avec la SNEL. C'est difficile à comprendre. Et grâce à Bafoule Décalémi, dans notre pays il y a toujours un problème de respect des textes en cette matière. Il y a l'école du travail, ça doit être respecté, même au niveau de la SNEL, on doit respecter l'école de travail. Robert, vous êtes en Bujumaï, bonjour.
Bonjour, M. Jean-Marie, c'est bonjour à l'invité.
Voilà, on vous écoute, Robert.
Oui, je vous ai bien suivi, je remercie d'abord l'invité pour nous avoir réunis dans le débat des journaliers, parce qu'à un moment, on était en train d'aller en dehors de ça. Mais moi, j'ai une préoccupation très, très sérieuse ici. Je suis quand même responsable d'une structure ici en Bujumaï. Et chaque fois que nous utilisons les journaliers, nous savons que la loi protège beaucoup plus les employés que les employeurs. Et j'ai un chantier, par exemple, à Kabeya Kamanga, où je dois utiliser des journaliers. Et je sais que ces journaliers s'assisent et ils utilisent plus de 22 jours sur les chantiers. Deux fois de suite, je serai dans l'obligation de transformer leur contrat en contrat juridique déterminé. Il revient à moi, à mon niveau, de prendre des stratégies pour éviter ce genre de choses, parce que je n'ai pas besoin d'engager les gens. Et alors, qu'est-ce que je fais? J'essaie de tricher. Et après, qu'est-ce que je fais? Je dis non, monsieur, je t'utilise 22 jours. Et dès que je ne sais pas partir, tu es surpris. Qu'est-ce qu'on fait? Généralement, dans l'arrangement, l'employé ou le journaliste change de nom. Je dis non, voilà, je ne suis plus Robert, je deviens Antoine. Comme ça, pour éviter que l'employeur soit poursuivi en justice pour l'utilisation, ou bien pour que le contrat de ce jeune soit transformé. Alors, moi, je voudrais poser un peu la question à ce sujet-là. Je dis, moi, sachant que la loi protège les journaliers, suivant la loi, parce que la loi est là, est-ce qu'un journalier qui doit travailler pendant 22 jours ou 48 jours, doit-il signer, sur le mot écrit, un contrat écrit? Je peux te sentir imaginer en Bembéna à quelques kilomètres de Mbujumaï où je dois utiliser la main d'œuvre locale. Ces gens-là doivent-ils, si je recrute des journaliers, doivent-ils écrire un contrat avec leurs employeurs? C'est ma préoccupation.
Voilà, merci beaucoup Robert. Je voulais savoir si vous êtes à Rebeka Manga, vous êtes en Andangika dans votre chantier, 22 jours, vous devez utiliser les journaliers. Faudrait-il qu'ils signent un contrat écrit pour. C'est 22 jours, c'est ça ce que vous voulez savoir. Ou bien ça va rester verbal, mais le problème est sérieux et vraiment profond, vous l'avez dit. Il y a des gens qui viennent vous supplier pour dire, papa, si vous me mettez dehors, comment les enfants vont survivre, laissez-moi continuer à travailler quand même. Et pour et c'est là où ça devient aussi difficile. Il y a la complicité humanitaire qui entre, voilà, si vous laissez votre frère, il a une grande charge, laissez-le travailler, même si je ne signe pas les contrats. Voilà un peu, nous ça pose le problème. Merci beaucoup Robert pour ce témoignage et cette question. Claude, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Claude.
Oui, merci beaucoup pour la parole au Capi. Je voulais relever une ou deux choses.
Allez-y. Celui qui a parlé avant Robert, je ne sais pas si c'est des techniciens du ministère du Travail ou c'est un intervenant comme moi. Il y a une responsabilité dans cette matière qui relève de trois parties. Je dirais l'État d'un côté, les employeurs de l'autre et le Congolais lui-même en tant que travailleur de l'autre. Mais je crois que le Congolais, on ne peut pas tellement trop le sacrifier parce que il subit. En matière de la politique de l'emploi, l'État congolais a un ministère. Au-delà du ministère, nous avons l'ONEM, qui est l'Office national de l'emploi. Et il est prévu qu'une société qui veut engager s'adresse à l'ONEM. Et c'est l'ONEM qui lui envoie la liste de travailleurs répondant au profil prévu ou fixé par l'employeur et qui peuvent être testés. C'est dans ce lot-là qu'on peut faire une sélection. Tous ceux qui déplorent aujourd'hui le mauvais traitement des expatriés, je crois que cette procédure n'a pas été respectée. Les expatriés viennent, ils mettent d'abord les autorités congolaises dans leur poche. C'est une stratégie qu'ils ont prise. Vous pouvez vous en rendre compte. Aujourd'hui, il y a l'Agence nationale, l'ANAPI, de la promotion d'investissement. Si vous y allez, demandez à l'ANAPI de vous présenter des statistiques sur 15 ans. Combien de sociétés ont été agréées au cours des investissements? Avant que ces sociétés ne soient agréées, les sociétés présentent un projet, une étude de faisabilité, qui pousse l'ANAPI ou les deux ministères financent les plans d'agréer ces sociétés-là, ces investissements-là. Et dans cette matière, il y a l'État congolais qui perd une bonne partie de finances. En matière des importations, donc parce qu'il y a autant d'exonérations qu'on accorde à des investisseurs. Et au retour, l'État attend la création d'emplois par ces investisseurs-là. Est-ce que ça s'est fait? Est-ce qu'il y a un suivi pour savoir si chaque investisseur a respecté son cahier de charges présenté à l'ANAPI? Ça ne se fait pas. Vous trouverez la même société qui a bénéficié des avantages pour 5 ans, au bout de 5 ans, n'a pas réalisé ce qu'elle devrait réaliser, elle change de nom, elle revient avec une nouvelle étude qu'elle introduit. Et l'État congolais est là, inexistant. J'aborde l'aspect de l'inspection du travail. Je ne sais même pas si cette boîte-là mérite d'être appelée inspection. Les inspecteurs du travail qui sont censés faire respecter la loi deviennent aujourd'hui des conseillers et des investisseurs et des ministres. Comment on peut contourner? Comment on peut faire? Comment on peut... Ils vont conseiller à l'employeur, écrit une lettre, présente la lettre sous cette forme, vous présentez tel problème, nous allons traiter, on va donner des avis et le ministre va vous signer un arrêté autorisant les licenciements, par exemple, des travailleurs. J'en suis victime, moi.
Voilà, Claude, mais ce que vous avez dit, c'est important. Il y a la responsabilité de l'État sur toute la ligne, mais vous avez aussi insisté sur le fait qu'il y ait la responsabilité partagée, notre invité l'a dit. Mais alors, la question de la population qui subit, vous l'avez dit, déjà si l'État peut subir, vous l'avez dit, l'investisseur peut déjà faire subir l'État, la force de son capitalisme, comme il l'a dit tout à l'heure, et l'État commence à subir le fait que l'investisseur met, vous l'avez dit, les autorités dans la poche à de plus fortes raisons, ceux qui vont être employés dans cette entreprise-là. Et là, il faudrait vraiment, sur toute la ligne, que les responsabilités soient prises, que ce soit aussi l'éveil de conscience de la population qui ne doit pas être complice, n'est-ce pas, dans la violation du code de travail. Tout cela, c'est important. Merci beaucoup, Claude. Vous êtes ici à Kinshasa. José, vous êtes à Colésie, dans la province du Katanga. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à notre invité.
Alors, vous avez suivi les uns et les autres de la responsabilité de l'État, mais il faudrait aussi à un certain moment que la population se réveille. Bien sûr, il y a le problème de pauvreté qui se pose, des difficultés même d'accéder à l'emploi. Ce qui fait aujourd'hui que les gens acceptent de travailler à longueur des journées. Notre ami de Mbujima, il le disait tout à l'heure, on supplie celui qui vous utilise et vous restez autant d'années, autant de jours. En train de travailler comme journalier et on devient complice de celui qui viole la loi. Qu'est-ce qui doit être fait rapidement, José?
Mais je vais juste revenir sur ça en disant que le gouvernement est trop lent en suivant leurs instructions. Pourquoi? Puisqu'ils prennent des engagements avec des expatriés qui viennent s'implanter dans notre pays. À titre d'exemple, les Chinois, tout ça. Ces gens-là arrivent ici, ils ont leur plan d'action, ils se contactent avec notre gouvernement. Et le gouvernement prend les engagements avec ces gens-là. Ils ne l'ont pas dit que ici, chez moi, nous ne voulons pas de contrat, je ne sais pas, journalier, puisque notre invité nous a dit que le Code du travail n'a pas souligné le contrat journalier. Là que le contrat a duré déterminé, aussi que le contrat a duré indéterminé. Il n'a pas explicité d'abord la différence entre le contrat à durée déterminée et aussi qu'à durée indéterminée. Ça, c'est un point à part. Pourquoi le gouvernement ne fait pas le suivi pour savoir pourquoi ces gens-là sont en train de prendre les gens en leur disant le contrat à durée. Le contrat journalier, aussi longtemps que le contrat journalier n'existe pas.
Voilà. On va terminer avec vous, José. Votre souci est que l'État doit dire aux investisseurs, quand vous arrivez chez moi, voici ce que l'École du travail dit, ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. On va retrouver Maître Bruno après le flash information de Radio Capi avec notre invité pour parler de la sécurisation de l'emploi en RDC. Tout de suite, vous allez suivre le flash information de Radio Capi. On se retrouve après 2 minutes. Merci pour cette flash d'information des Radio Capi. Parole aux auditeurs continue dans sa dernière partie. Plus de 300 journaliers qui ont œuvré au sein de la SNEL depuis plus de 3 ans pour les uns et plus de 10 ans pour les autres réclament la régularisation de leur situation. Dans une correspondance adressée au Premier ministre et rendue publique à la presse ce week-end, l'avocat conseil de ses agents sollicite l'implication ultime d'Augustin Matatampolio pour que ces Congolais soient remis dans leurs droits conformément au code de travail en RDC. Cette situation relance les débats sur la sécurisation de l'emploi dans les secteurs public et privé en RDC malgré l'existence de ces codes de travail. Comment commentez-vous cette actualité? C'est la question au centre de notre échange. Nous revenons dans ce studio à notre invité Polydor Tanguili. Vous avez suivi les uns et les autres la question des journaliers. Il y a un autre ami de Colésie qui disait tout à l'heure, mais c'est à l'État congolais de dire à l'employeur qui arrive, aux investisseurs, que ce soit chinois, italien et tous ceux qui viennent pour investir au Congo, pour leur dire voilà ce que le code de travail prévoit en amont, vous n'avez pas le droit de faire ça, voilà ce que vous ne pouvez pas faire. Mais il y a un autre compatriote qui nous a appelé de Mbujima, Robert, qui a dit il a ses chantiers, est-ce qu'il peut arriver à faire signer un contrat écrit à ceux qui travaillent au jour le jour pour 22 jours? Est-ce qu'il peut avoir un contrat écrit rapidement à ces questions? On va écouter les deux derniers auditeurs de cette émission.
Exactement, l'article 40 est éloquent en cette matière. Il doit le faire au jour le jour. Bon, on m'a reproché de ne pas parler de pas différencier les deux sortes de contrats. Je le fais. Parmi les contrats à durée déterminée, il y a les contrats au jour le jour. C'est-à-dire, avant que je vienne presser pour cette journée, je signe. Mm-hmm. Et si je dois le faire pour l'autre journée, je le signe. Mais dans 2 mois, si j'excède 22 fois, 22 journées, alors ça devient un contrat à durée indéterminée. Mm-hmm. Donc il doit l'écrire. Et je présume qu'il l'écrit puisqu'il nous a même dit qu'il y a la complexité des changements des noms.
Ouais.
On ne peut changer le nom que dans les écrits. Donc là, il n'y a pas de débat. Par rapport à notre ami, bon, au fait, là, je crois la problématique de la sécurisation d'emploi, les efforts, j'ai posé le diagnostic en disant c'est à 3 niveaux.
Mm-hmm.
Mais les efforts doivent aussi être fournis à 3 niveaux. C'est que, comme certains l'ont dit, le politique doit donner de l'impulsion. Quelle est l'image qu'on veut se faire du fonctionnaire? Quelle est l'image qu'on veut se faire du travailleur congolais. Et je salue ici ce que le gouverneur Moïse Katumbi avait dit en disant, dans notre province, en ce qui concerne un journalier, quelqu'un qui travaille en saison, quiconque qui ne soit en dessous de 100 dollars. Mais au niveau national, il y a les SMIG. Bien que les SMIG ne s'appliquent pas à toute catégorie de travailleurs. Mais il faut une certaine vision et une volonté politique de voir les choses se réaliser.
Est-ce qu'il est même ce SMIG qui vraiment il est aujourd'hui réutilisé dans ceux qui sont concernés? On se rappelle des débats quand il y a eu beaucoup de grèves autour de ça. Est-ce que cela est pris en compte?
Bon, on va vous opposer les conditions, les charges sociales des entreprises. Hein, c'est vraiment un grand débat. Mais il faut des mesures d'encadrement pour aboutir à ça. C'est comme aujourd'hui le Moody. Le Moody, lorsqu'il a été proposé, je crois en 2005 ou 2004, on était presque à 10% de Moody. Mais aujourd'hui, il y a une légère augmentation. Donc, il faut des mesures d'encadrement entre les syndicats et les gestionnaires pour que cela puisse devenir un jour une réalité. Donc, cette volonté politique de l'image du travailleur qu'on a à toute catégorie confondue, journalier, quelqu'un qui a un contrat à durée déterminée de jour au jour, contrat d'essai, contrat saisonnier, tout ce sont ces contrats, et même les gens à contrat indéterminé. Quelle image de quel type de travailleur aujourd'hui, quand on me dit je travaille au Congo, quel type de personne je dois être? C'est ce qu'on attend du gouvernement. Et à travers cette structure de réglementation, comme le ministère du Travail et spécialement l'inspection du travail, qui puisse vraiment travailler, que ce service soit réformé de fond en comble. Pas comme on l'avait dit autrefois, on va engager 1000 personnes qu'on va recruter de manière aléatoire. Que ce soit des personnes bien, de bonne moralité, puisque le secteur du travail est vraiment fondamental. Mais aussi au niveau de nous Congolais. Au niveau de nous Congolais, il faut une certaine vigilance. Mais voilà. Est-ce qu'aujourd'hui on peut me témoigner à travers le Congo qu'un seul Indien, un seul Chinois est arrivé dans un village, il a proposé aux villageois qu'il va leur payer 10 dollars et les villageois ont refusé? Ils ont protesté, ils rentrent avec ces objets, d'où tu viens? Non, c'est-à-dire, il y a une certaine mollesse de la part du Congolais, il n'y a pas une certaine vigilance. Donc c'est nous-mêmes qui enrichissons le marché d'emploi de toutes ces...
On va revenir pour conclure, Maître Bruno Itaouvira, Daniel Agumbashi, chacun une minute, mais cette question des 1000 jeunes inspecteurs du travail qui devaient être recrutés, on a tenté plusieurs fois de joindre en son temps le ministre du Travail, Modeste Bahati, quand il n'est pas encore commandé de ses ministères pour faire le point sur le recrutement de ces jeunes inspecteurs du travail. Ça n'a pas marché en cette période. Peut-être qu'on pourra voir dans les temps où est-ce que nous en sommes aujourd'hui avec les recrutements de ces jeunes inspecteurs et la suite est réservée vraiment à cette réforme. Maître Bruno, vous êtes à Ouvira, c'est dans la province du Sud-Kivu. Bonjour, maître.
Merci. Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute rapidement, en une minute, votre point de vue par rapport à la sécurisation de l'emploi.
Moi, je pense que la responsabilité est partagée. Il y a d'une part l'employeur et l'État, et d'autre part l'employé. L'employé, pourquoi? Parce que le Congolais est d'abord l'ennemi de lui-même. Il va s'engager dans une chose, là il n'a pas un contrat, il n'est pas syndiqué, il accepte de travailler de n'importe quelle manière. C'est pourquoi l'employeur profite de la faiblesse de l'employé pour dominer sur lui. Et aussi, je ne suis pas d'accord avec ce que votre invité est en train de parler des syndicats, parce que moi-même je suis syndicaliste ici à Ouvira. C'est l'employeur qui convoque les organisations syndicales. Si l'employeur ne le fait pas, qu'est-ce que nous, syndicats, nous allons faire? Vous allez voir que c'est vraiment une faiblesse de l'État d'une part et aussi des Congolais. Voilà le fait des mots que j'avais.
Voilà, mais maître Bruno, mais là déjà, si vous n'êtes pas en mesure, vous, syndicaliste, de pouvoir dénoncer le fait que l'employeur qui fait tout pour vous, ça va être aussi difficile. C'est la responsabilité aussi de la faiblesse du syndicat là où vous êtes. Merci beaucoup. Daniel, vous êtes avec nous de Lubumbashi. Bonjour, Daniel.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous ces amis qui suivent la radio Capi à ce moment.
Voilà.
Je voulais dire aussi.
Oui, Daniel, rapidement, parce qu'il y a quelqu'un de la SNEL, je crois, un journalier de la SNEL qui est en ligne et qui voudrait vraiment placer un mot. Hein. Il n'est pas d'accord avec notre invité. On va lui accorder la parole. Mais en attendant, Daniel, allez-y.
Le texte dit Pierrot, les auditeurs ont beaucoup dit. Le texte existe dans notre pays, Pierrot. Mais moi, je voulais souligner sur ces faits qu'on puisse regarder la réalité en face, Pierrot. La réalité, c'est laquelle? Dans nos entreprises publiques, dans le cas de la SNEL, GECAMI, SNCC, il y a ce qu'on appelle les favoritismes. Les gens engagent les gens en désordre, on prend ses terres, on prend des connaissances, et chaque mandataire qui passe ne fait que de la sorte. Ce qui fait que les entreprises se retrouvent avec des pléthores d'agents. Et si par exemple, si il y a des temporaires à la SNCC, à la GECAMI, des nouvelles unités dans l'administration publique, et la finalité c'est laquelle? C'est qu'on ne va nulle part. C'est tout cela conditionné par notre mentalité, nous les Congolais. Chaque administrateur qui arrive, chaque gestionnaire qui arrive, prend ses frères, prend ceci, cela et étouffe. Pour quelle finalité? Pas des résultats, mais seulement des prêteurs d'argent. Et commençons par changer d'abord notre mentalité. Les textes sont là, mais ils doivent être appliqués.
Merci beaucoup, Daniel. Il faudrait respecter les textes dont les mandataires, chacun à sa gestion, il voudrait engager. Il y a un journalier, je crois, une victime de la semaine qui est avec nous sur les antennes, qui voudrait vraiment placer un mot. Il n'a pas été d'accord avec les propos de notre invité. Il est déjà avec nous en ligne. Et il nous appelle, je crois bien, ici de Kinshasa. S'il peut, on va lui accorder la parole d'un moment à l'autre. Vraiment, il est avec nous, c'est Claude. Claude, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour, Claude.
Bonjour, papa.
Oui, allez-y rapidement, on vous prend vraiment à la fin de l'émission. On n'a que deux minutes. Hein. Vous n'êtes pas d'accord avec le propos de notre invité parce que vous êtes victime de la situation de la SNEL. Rapidement, Claude.
Oui, nous sommes victimes de ça. J'y suis à la SNEL au-delà déjà de 5 ans passés. Personne qui nous a engagés, on nous promet toujours, sauf qu'au mois de décembre de l'année passée, on nous a accordé un mois officiellement, et c'est-à-dire le mois de décembre, pour bien fêter le fin de l'année. Et on nous a donné quelque chose au mois de janvier, mais depuis là, on travaille, nous avons des chefs qui nous utilisent chaque jour, mais jusqu'aujourd'hui sans succès. Alors je suis désolé quand j'entends l'invité dire que non, il y a des sous-traitants. Nous n'avons aucun sous-traitant. Nous partons au travail chaque jour et on nous fait travailler chaque jour, tantôt même des heures tardives. Je suis dépanneur, je suis tableur, je fais tout. C'est pourquoi, ça dit, j'entre dans les cabines, je fais tout ce qu'il faut faire, peut-être pour faire les abonnés. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous avons notre maître avocat qui a les dossiers. Il s'est allé même au niveau de l'inspection générale du travail, il s'est allé par-ci, par-là, jusqu'à aujourd'hui, sans suite, la semaine nous bloque. Alors, je suis désolé d'entendre l'invité dire.
Voilà. Il va réagir. Notre souci, même en organisant cette émission, c'est de voir comment on peut trouver la solution à votre problème. Vous avez été utilisé pendant 5 ans, vous l'avez dit. Il n'y a pas de sous-traitance à la SNEL. C'est vous-même qui travaillez avec vos chefs. On vous envoie sur le terrain, vous faites tout. Mais au mois de décembre, on vous a donné un peu d'argent pour fêter. Et puis après, là, il n'y a plus rien. Alors, on revient à vous, Polydor, parce qu'on doit conclure cette émission en répondant aussi à notre compatriote rapidement et pour conclure.
Je comprends que Claude est victime d'un système qui le manipule. Est-ce qu'il est capable de me dire le statut qu'il a dans la SNEL? Comment il est lié à la SNEL? Quel texte il a? Nous avons parlé ici d'une escroquerie qui se font par les capitalistes. C'est que la même personne, on change de nom, hein? On l'utilise en saison, ce sont des contrats d'essai qui sont renouvelés par d'autres noms, mais avec les mêmes opérateurs.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il peut nous brandir des documents qui...
Un
contrat...
Mais il faudrait quand même que la situation soit éclairée.
C'est un problème de vigilance.
J'en
appelle ici au prochain conseil du travail que la problématique de la sécurisation de toutes ces personnes qu'on appelle journaliers à tort, hein, puisse être mis au clair. Et qu'on aboutisse à ce que moi j'appelle ici l'attestation du journalier.
Parce
que s'il y a quelqu'un qui a été utilisé de manière informelle, et au bout des temps, on le fait partir, alors qu'il a investi une partie de sa vie pour ce travail-là, qu'il soit quand même indemnisé.
Merci beaucoup, Polydor Tangeli. Vous êtes spécialiste en psychologie du travail. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Merci aux auditeurs. Cette émission a été mise en onde par Jean-Claude Desciala. Julie César Bongonda l'a réalisée. Et Pierrot et la Mie, je vous la présente. Vous allez retrouver parole aux auditeurs sur www.radiocapi.net. Au revoir.